Bonjour à tous.
Je ne fais que revivre le même jour encore et encore, encore et encore. Et je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Et je ne fais que revivre le même jour encore. Je ne fais que revivre le même jour. Je ne fais que revivre le même jour encore.
Sur les nouveaux chemins, où c'est une semaine sans fin que nous vivons et revivons. Une semaine répétitive, mais non pas routinière, ni usante, ni lassante. Une semaine où la répétition ouvre toujours un horizon, celui de Kierkegaard et sa reprise amoureuse lundi, celui de Nietzsche et de son éternel retour hier mardi, et enfin celui de la musique demain. Mais aujourd'hui, c'est l'horizon singulier de la répétition deleuzienne qui va s'ouvrir sous vos oreilles. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins se répète et se singularise elle aussi. Marianne Chassor, Antoine Ravon, David Pargamin, Colomba Grossi, Lucie Tardy, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes Georges Kless, à la réalisation Mydia Portis-Guérin et à la prise de son aujourd'hui Théo Gomard. Un événement, si petit soit-il, la chose la plus délicate du monde. Le contraire de faire un drame ou de faire une histoire. Aimer ceux qui sont ainsi. Quand ils entrent dans une pièce, ce ne sont pas des personnes, des caractères ou des sujets. C'est une variation atmosphérique. Un changement de teinte, une molécule imperceptible, une population discrète, un brouillard ou une nuée de gouttes. Tout a changé en vérité. Les grands événements aussi ne sont pas faits autrement. La bataille, la révolution, la vie. La mort. Un 2 février, on ne sait de quelle année, le présentateur météo Phil Connor s'est envoyé en reportage en Pennsylvanie à l'occasion du célèbre jour de la marmotte. Impatient, imbu de lui-même, imprévisible, il reste coincé, condamné dans cet espace et dans ce temps. On connaît bien sûr la suite de ce film, tout aussi célèbre que cette journée de la marmotte. Ce jour sans fin ne prendra justement fin que lorsque Phil Connors, comme l'indique l'affiche du film, vivra le plus beau jour de sa vie. Entendez, aura dit son amour, aura accepté sa condition, aura changé. Il lui aura fallu 38 jours montrés à l'écran, 64 selon ses dires, mais selon les fans du film, 12 403 jours pour enfin changer dans la répétition. Car le premier jour de cette interminable répétition n'était donc pas l'événement, il n'était déjà que la répétition, la préparation de ce changement tout autant imperceptible que crucial. Et si donc, comme le disait Deleuze, l'événement était la chose la plus délicate du monde, pas un drame, pas une histoire, rendu précisément délicat par l'œuvre de la répétition. Et si la répétition était déjà le changement, la différence, la nouveauté ? Éclairage aujourd'hui de Deleuze en compagnie d'Anne Sauvagnargues, professeure de philosophie à l'Université Paris-Ouest-Nanterre. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Elle, c'est Suzanne, la patronne. Elle boite un peu, mais elle n'a jamais renversé un verre. Quand elle était jeune, elle était danseuse équestre à Medrano. Elle aime les sportifs qui pleurent de déception. Elle n'aime pas voir dans son café un homme se faire humilier devant son enfant.
Moi, je pense et toi, tu obéis.
Au tabac, c'est Georgette, la malade imaginaire. Quand elle n'a pas de migraine, c'est le nerf sciatique qui coince. Celle-là n'aime pas entendre, le fruit de vos entrailles est béni. Voilà Gina, la collègue d'Amélie. Sa grand-mère était guérisseuse. Ce qu'elle aime, c'est faire craquer les os. On la voit qui sert un kir framboise à Hippolyto, l'écrivain raté. Lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est voir à la télé un toréador se faire encorner. Le type qui les observe, l'air mauvais, c'est Joseph, un amant jaloux et conduit par Gina. Il passe ses journées à l'espionner pour voir s'il a un remplaçant. La seule chose que celui-là aime, c'est crever les pustules des emballages en plastique.
Ces mille habitudes qui nous composent, ces contractions, ces contemplations, ces prétentions, ces présomptions, ces satisfactions, ces fatigues, ces présents variables, forment le domaine de base des synthèses passives. Le moi passif ne se définit pas simplement par la réceptivité, c'est-à-dire par la capacité d'éprouver des sensations, mais par la contemplation contractante qui constitue l'organisme lui-même avant d'en constituer les sensations. Aussi, ce moi n'a-t-il aucun caractère de simplicité. Les mois sont des sujets larvaires. Le monde des synthèses passives constitue le système du moi. Il y a moi dès que s'établit quelque part une contemplation furtive, dès que fonctionne quelque part une machine à contracter, capable à un moment de soutirer une différence à la répétition. Le moi n'a pas de modification. Il est lui-même une modification. Ce terme désignant précisément la différence soutirée.
Anne Sauvagnard, on vient d'entendre, interprété par le comédien Georges Clès, un extrait du deuxième chapitre de Différence et répétition de Gilles Deleuze. Alors après avoir traité de la différence en elle-même dans le premier chapitre, Deleuze traite ici de la répétition pour elle-même. Et comme on l'a entendu dans l'extrait du film de Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain, on entend dans ce texte que les individus, les sujets ne sont composés que de mille habitudes, contractions, contemplations, prétentions. Est-ce qu'on peut dire que la répétition chez Deleuze est d'abord ce qui permet de penser l'identité en fait des sujets ?
Alors, vous ouvrez la répétition sur ce que vous appelez l'habitude des sujets, c'est-à-dire que vous pensez quelque chose qui se répète. C'est intéressant. Parce que qu'est-ce que vous allez dire de ce quelque chose ? Est-ce que ce quelque chose est donné ou est-ce qu'il est en train de ne pas consister, de ne pas avoir de présence en dehors de cette répétition ? Alors, je voudrais pas tout de suite envoyer la discussion sur la question du sujet parce que c'est un tout petit peu trop hardi. Commencez déjà par vous demander où est-ce qu'on pense répétition, où est-ce que la répétition s'installe dans notre vie ? Par exemple, je fais des petits bruits avec ma bouche, presque rien. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait répétition ? Vous voyez, il faut une occurrence.
Il faut un rythme.
Il faut une deuxième occurrence. Et supposer que la deuxième, ça c'est la quatrième déjà, est identique à la première. Vous avez déjà toute une métaphysique. Parce que dans la répétition, vous avez l'idée qu'il y a qui s'est présenté, et puis se représente, et se représente à nouveau, et donc vous avez déjà une succession, vous avez du temps, vous avez une temporalité, vous avez une périodisation, et dans cette périodisation, vous avez une scansion, un rythme. C'est déjà la musique, mais il n'y a pas besoin d'abstraire la musique. C'est déjà une contraction organique. C'est déjà n'importe quelle existence. Et ici, la répétition, on la loge exactement au cœur de n'importe quoi qui s'essaye à persévérer, à continuer. Ce micro se répète, l'émission se répète demain, la semaine prochaine, à la même heure, la même équipe. Et en même temps, vous vous transformez. Donc, dans les langues latines qui prennent le terme répétition, répétition soit vous renvoie à la plage précédente et vous dites que le deuxième est le même que le premier et vous pensez la répétition comme retour au même, oui. Ou bien vous faites du théâtre, vous vous dites « Ah non, mon claquement de langue n'est pas assez parfait, je le recommence. » Et donc vous persévérez, et en persévérant, vous vous exercez. Et ici, on n'est plus dans la répétition similaire de la métaphysique occidentale, de l'éternité. On est dans la répétition théâtrale, on est dans la répétition comme une pratique politique de transformation. Et c'est ça l'enjeu. Passer pour nous d'une compréhension monotone, éternitaire, où ce que nous privilégions, c'est l'unique, l'identité, le Dieu masculin, l'homme blanc, le sujet personnifié, l'âme catholique, suspendue sur sa petite chaîne en argent, au col d'individus qui ont été subjectivés, mis en forme dans des sociétés. Deleuze ne prend pas la répétition à cet étage de l'éternel, il essaye de la penser comme un processus de production. Et regardez, je redis, habitude pour vous et pour moi, répétition. C'est-à-dire, vous voyez mon moi larvaire, un moi larvaire en train de se constituer, le moi larvaire de ma voix qui traverse les ondes et qui réussit à se stabiliser juste assez pour prendre consistance. Cette philosophie de la répétition est une nouvelle théorie de l'identité.
C'est une nouvelle théorie de l'identité, c'est-à-dire que d'un côté on a l'identité qui est quelque chose de fixe, de stable, et de l'autre on a la répétition que l'on peut entendre dans deux sens, donc d'un côté de cette sorte de stabilité, de fixité, mais on a aussi la répétition qui va être la répétition comme au théâtre, la répétition pour se préparer. Mais dans le cadre des habitudes, dans le cadre de l'identité d'un sujet, dès lors en plus que vous avez employé le terme, suite à Deleuze, qu'on a entendu aussi dans le texte, de ce terme de larvaire. Or, quand on se prépare à quelque chose, quand on se prépare sur le mode de la répétition théâtrale, on est déjà conscient, en fait, de ça. On n'est plus dans la passivité, on n'est plus dans la synthèse passive ou larvaire.
Alors, le monde, les choses, les gens, vous pouvez vous avoir le type, comment dire, de petit cinéma intérieur que vous voulez. Ce dont vous parlez, là, c'est la répétition western, un peu à la John Wayne, le grand qui, sur son cheval, voit que ça se répète, il prend sa carabine, il tire, il agit dans l'histoire. Vous avez l'idée d'entités qui sont déjà données comme des sujets. Ce qui intéresse Deleuze, c'est de se demander, bon, au fond, il connaît bien l'histoire de la philosophie, et donc il nous dit... Depuis le début de la philosophie, la répétition est pensée soit sous couvert de l'éternité de la présence, donc d'une présence qui devrait être pleine, et la répétition montre simplement une sorte de manque, de décrochage par rapport à la vraie réalité, à l'être. Et puis, on pense la répétition à partir de la modernité européenne comme conscience. Mais la conscience elle-même, elle ne se répète pas. Elle est donnée comme substantielle. Mais si vous arrêtez de penser comme ça, vous pensez, comment étiez-vous lorsque vous êtes né? Comment étiez-vous au deuxième jour de votre vie? Comment serez-vous dans, j'imagine, 50 ans? Vous allez être, non pas vous-même, mais vous allez être dans un continuum de transformation. Et dans votre corps, c'est pas simplement la transformation à l'échelle de la conscience, du langage humain qui compte. C'est l'ensemble des petites synthèses qui travaillent votre existence. Et votre existence, eh ben, n'est pas seulement humaine. Votre existence, elle est aussi matérielle. Votre existence, bien sûr, elle est aussi organique. Votre existence, elle est en même temps organique, sociale, inconsciente, matérielle, et à tous ces niveaux, le problème de la répétition est un problème tout à fait passionnant. Par exemple, la répétition inconsciente. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge qui se répète aussi. La répétition inconsciente dans la psychanalyse. Et l'autre question que vous posiez, c'est qui se répète? Qui sommes-nous, nous, les sujets? Et je vous réponds, vous pouvez pas poser la question à partir de l'étage de quelque chose qui serait déjà là. Vous devez penser la répétition comme ce par quoi vous vous transformez en durant, en vous modifiant. Donc ce qui est substantiel, c'est pas que quelque chose se répète, la seule chose qui existe vraiment, c'est du répété qui change. Et ici, tout a varié. C'est-à-dire maintenant, répétition, c'est plus revenir au même. Maintenant, répétition, c'est acter sa durée, changer.
Donc c'est la répétition qui est différence par elle-même, ce n'est pas la répétition qui crée de la différence.
C'est bien au deuxième que je sais que ça se répète, pas au premier. Ah bah, comment est-ce que vous savez que ça se répète ?
Mais ça dépend si on considère que le premier est la répétition comme la préparation du deuxième.
Tout à fait. Mais regardez, si j'en ai qu'un, il n'y en a pas. Alors, ça nous donne une indication plus importante que premier, second, des nombres ordinaux qui indiquent une série. En réalité, il n'y a de répétition que du pluriel. Que du pluriel. Donc, toujours dans la diversité. Donc, toujours dans la multiplicité. Et la vraie question philosophique, c'est qu'est-ce que vous faites du nombreux ? Qu'est-ce que vous faites de la multitude ? Vous voyez que c'est une question politique aussi. Qu'est-ce que vous faites du populaire multiple ? Qu'est-ce que vous faites de l'ensemble des multiplicités ?
En fait,
donc,
comment
c'est une théorie du pluriel.
Comment on identifie le pluriel sans le ramener, sans le ramener au même ?
Alors, c'est exactement la question, telle que d'ailleurs Deleuze la formule, dans Différence et répétition, ce livre de 1968 auquel vous faisiez référence, et il formule cette position philosophique en s'appuyant sur le mathématicien Riemann, l'auteur de la théorie des multiplicités, et puis sur Bergson. Et Bergson nous dit ceci. Eh bien, il y a différentes manières de penser le pluriel. Vous pouvez penser le pluriel comme plein de petits 1. Vous avez un gros sac et dans le gros sac, vous avez plein de petits 1. Mais tous les 1 sont identiques, unitaires. C'est pas ça du pluriel. Le pluriel ne peut pas être composé d'unités discrètes que vous réputez identiques. Donc essayez de faire une métaphysique sans ça, et vous avez exactement tous les problèmes de la modernité philosophique contemporaine. Nous voulons penser le pluriel sans le ramener à l'un, l'identique, l'unitaire, l'identitaire, le personnel. Et donc nous cherchons à penser du multiple vraiment pluriel. Du multiple vraiment pluriel, c'est-à-dire non composé d'unités antécédentes, subsistantes, unitaires, identiques.
Si la répétition est possible, c'est contre la loi morale autant que contre la loi de nature. On connaît deux manières de renverser la loi morale. Tantôt par une remontée dans les principes, on conteste l'ordre de la loi comme secondaire, dérivé, emprunté, général. On dénonce dans la loi un principe de seconde main qui détourne une force ou usurpe une puissance originelle. Tantôt, au contraire, la loi est d'autant mieux renversée qu'on descend vers les conséquences, qu'on s'y soumet avec une minutie trop parfaite. C'est à force de trop épouser la loi qu'une âme faussement soumise arrive à la tourner et à goûter au plaisir qu'elle était censée défendre. On le voit bien dans toutes les démonstrations par l'absurde, dans les grèves du zèle, mais aussi dans certains comportements masochistes de dérision par soumission. La première manière de renverser la loi est ironique, et l'ironie apparaît comme un art des principes, de la remontée vers les principes et du renversement des principes. La seconde est l'humour, qui est un art des conséquences et des descentes, des suspens, des chutes. Faut-il comprendre que la répétition surgit dans ce suspens comme dans cette remontée, comme si l'existence se reprenait et se réitérait en elle-même dès qu'elle n'est plus contrainte par les lois ? La répétition appartient à l'humour et à l'ironie. Elle est par nature transgression, exception, manifestant toujours une singularité contre les particuliers soumis à la loi, un universel contre les généralités qui font loi.
Voulez-vous venir comparer les copies, s'il vous plaît ?
Je préférerais ne pas le faire.
Oh ! Non, mais je vous en prie, dépêchez-vous, je vous attends. Venez collationner ces pièces.
Je préférerais ne pas le faire.
Vous ne voulez pas comparer ces pièces ? Et pourquoi je vous prie ? Enfin, vous devez exécuter l'ordre que je vous donne.
J'ai besoin d'organisation, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Et je n'ai pas fini ce travail.
Il n'a pas fini son travail. Ben, si vous le voulez, messieurs, vous apportez vos dossiers, puis nous collationnerons à 3 au lieu de 4, sans problème.
Thank you.
Anne Souvagnargues, Bartleby, voilà le personnage d'Herman Melville qu'on a entendu dans l'adaptation par Maurice René, une adaptation de 1978. Bartleby, c'est peut-être ce qui correspond, vous allez me dire, le mieux à cette idée que Deleuze déploie au tout début de Différences et répétitions, texte qu'on a entendu interprété par Georges Clès, parce que Bartleby ne fait que répéter en fait cette phrase tout à la fois énigmatique, à la fois de refus et d'ouverture, « I would prefer not to », et il parvient en fait à faire ce que dit Deleuze, à savoir, à force de trop épouser la loi, il est une âme qui, faussement soumise, arrive à la tourner.
Oui. Alors, c'est une magnifique histoire, celle de Bartleby, de Melville. On a un clerc de notaire et qui est happé par le petit scénario, les chevaux tournant, le manège insensé d'un protocole de parole qui sort de façon automatique. Donc, d'un automatisme de répétition. Et là, c'est bien parce que, du coup, je peux articuler à la fois le domaine de l'art, de la création littéraire avec Melville et ce personnage de Bartleby qui est là aussi pour dire l'invention lexicale, même avec cette phrase si pauvre. Et puis, articuler ça avec la politique et puis aussi avec la psychologie de l'identité, la question du sujet que vous me posiez au début. Puisque Bartleby est pris par cette puissance de redondance qui peut aussi se scléroser en réitération, en reproduction. C'est-à-dire en toc, comme on dit aujourd'hui, en abréviation un petit peu monomaniaque qui signe un appauvrissement de l'économie psychique. Mais justement, c'est en s'intéressant au statut de la répétition que Guattari forge le concept de ritournelle dès les années 60, en réalité, et avec Deleuze dans Mille plateaux, un ouvrage qu'ils écrivent ensemble en 1980, cette capacité de répéter exactement ce que fait Bartleby, « I would prefer not to », dire la même chose et au fond être en cessation de paiement avec le réel parce que vous dites « je préférerais ne pas, je voudrais être soustrait à la réalité », ce trait, cette compulsion apparaît aussi en même temps comme une répétition, il répète toujours, mais vous voyez la répétition maintenant, regardez, vous ne la prenez plus comme « il revient au même, il se refait lui-même », c'est Bartleby à nouveau, non. Vous prenez cette répétition comme un processus, comme un protocole, et même comme quelque chose qui a été déclenché par une crise. Et dans votre vie aussi, les habitudes que vous avez prises, vous les avez toujours prises à l'égard d'un changement que vous vous êtes incorporé. Donc toute habitude se donne sur la pointe de sa transformation comme un choc, une crise à laquelle nous répondons en nous constituant. Devenir sujet, c'est prendre habitude, c'est-à-dire, c'est se contracter.
C'est la machine à contracter, comme disait Deleuze dans le premier texte.
Il n'y a pas de subjectivité indépendante de ce noyau d'habitude. Mais vous collectivisez habitude avec plein de dispositifs sociaux, depuis la maternelle jusqu'à l'apprentissage de la propreté, vous êtes un nœud d'habitude très complexe et qui vous singularise, vous, et qui fait votre tracé, si vous voulez, de ligne de circulation. Mais ce que montre Deleuze, c'est que toute habitude est la riposte à partir d'une crise, d'un moment de singularité où on compose du temps. Et donc, c'est aussi une philosophie du temps très nouvelle.
C'est-à-dire que Deleuze ne dit pas seulement que, ce qui pourrait être paradoxal, que la répétition est liée à une singularité, que la répétition est aussi, ce qu'on a entendu dans le texte, exception, transgression, mais comment comprendre comment apparaît cette répétition? C'est-à-dire que vous parlez de crise, mais cette crise finalement, elle est recouverte par le nombre des répétitions. Non. Et il se joue bien une forme de répétition en creux d'une répétition. Donc, comment distinguer ces diverses répétitions entre la répétition de la loi, qui est une norme sociale, politique, morale,
d'accord,
et puis la répétition que nous, on va créer en creux, en fait?
Là, vous faites référence au texte qu'on vient d'écouter, qui est un texte extrait de Différences et répétitions, mais qui porte sur un débat un petit peu différent. où Deleuze travaille sur cette proposition faite par Marx, que l'histoire se répète toujours, mais qu'elle se répète toujours au moins deux fois. La première répétition est tragique et la deuxième répétition est comique. C'est-à-dire la première fois, on a quelque chose qui est un événement tragique, comme la Révolution française, par exemple. Et la seconde fois, on a une restauration qui est une sorte de piteuse, pathétique farce histrionique et qui en est la répétition désastreuse, mais aussi pleine d'humour. Et Deleuze utilise ça à un moment du livre où il essaie de contrebalancer le modèle éternitaire dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est pour ça qu'il prétend que la répétition fait transgression, ou disons permet d'échapper aux répétitions sociales ordinaires. Mais ne prononçons pas trop le mot de répétition, et pensez simplement à ceux qui, dans leur voiture ou ailleurs, nous écoutent. Qu'est-ce qui se répète? Eh bien d'abord votre corps, aujourd'hui encore, bravo. J'espère demain aussi, mais c'est pas si évident. Donc maintenant, vous prenez répétition comme existence. Et dans existence, vous prenez existence comme ayant une certaine puissance de durée. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est, en dehors du cadre du même, de penser la répétition comme une puissance de production, aussi comme une puissance de transformation des cultures. Vous voyez, je suis prof une partie de mon temps. Lorsque je suis prof, j'enseigne. Et enseigner, c'est aussi normaliser, mouler, apporter des canevas qui sont des canevas dominants, mais j'écris en même temps que j'enseigne, et écrire, c'est transformer, bouleverser. Vous avez dans toute répétition cette double valence, qui est celle de la consolidation, et donc de l'identité, mais une identité en processus, et puis celle de la variation, tout simplement parce qu'on est dans le domaine du pluriel. Et du coup, si vous voulez, le cadre métaphysique de la pensée est intégralement bousculé. Parce que du coup, nous ne pensons plus le « pas, 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 pas » de la répétition par opposition à l'un, mais nous pensons ça dans une philosophie du temps qui admet le multiple, qui admet un multiple véritablement où ce qui se transforme, c'est la multiplicité elle-même. Où vous n'avez pas des unités qui sont ajoutées, comme dans une collection empirique de petits cailloux, si vous voulez, où chaque caillou est encore là pour faire une stabilité. Et donc, lorsque Deleuze parlait d'âme larvaire, il vous dit larve. Et larve, vous vous dites, c'est pas beau, c'est visqueux,
ou du moins, c'est inconscient.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une larve? Une larve, c'est un tissu métamorphique en train de se transformer. C'est embryon, si vous voulez. Et vous ne devez pas penser larve seulement dans la jeunesse, parce que c'est le traumatisme occidental de penser l'identité toujours à la pointe de maturité d'un adulte achevé, masculin, et disposant des atouts sociaux, donc plutôt riche. Vous voyez, ce n'est pas une femme lesbienne, africaine, cul-de-jatte. Non, c'est plutôt... on pense l'identité sous la forme d'un achèvement qui traduit la maturité entre la jeunesse et la sénescence, le vieillissement. Deleuze choisit larvaire, mais il aurait pu choisir aussi sénile, pour nous faire admettre que dans ces temporalités visqueuses, si vous voulez, il y a des possibilités de forme qui se mettent au jour lorsque vous êtes très jeune, très vieux, ou lorsque vous subissez dans votre vie de profonds changements. Et c'est cette puissance de métamorphose que la répétition contient. Et elle la contient comme une transformation de mode de vie. Ritournel, c'est à ça que ça engage. Ça engage à penser à une petite chanson par laquelle nous consolidons notre identité. Vous êtes un ensemble de petites ritournelles, comme moi, comme tous ceux qui nous écoutent.
Répétez après moi, on se met le doigt dans l'œil.
On se met le doigt dans l'œil.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, il est 10h30 et c'est le troisième temps de notre semaine sur la répétition. Et aujourd'hui, pour parler de différences et répétitions de Deleuze, j'ai le plaisir de recevoir Anne Sauvagnac, professeure de philosophie à l'université Paris-Ouest Nanterre, auteure de Deleuze et l'art, et aussi Deleuze, l'empirisme transcendantal, les deux disponibles au PUF. Même la répétition la plus mécanique, la plus quotidienne, la plus habituelle, la plus stéréotypée trouve sa place dans l'œuvre d'art, étant toujours déplacée par rapport à d'autres répétitions. Et à condition qu'on sache en extraire une différence pour ces autres répétitions. Car il n'y a pas d'autre problème esthétique que celui de l'insertion de l'art dans la vie quotidienne. Plus notre vie quotidienne apparaît standardisée, stéréotypée, soumise à une reproduction accélérée d'objets de consommation, plus l'art doit s'y attacher et lui arracher cette petite différence qui joue d'autre part et simultanément entre d'autres niveaux de répétition. Chaque art a ses techniques de répétition imbriquées, dont le pouvoir critique et révolutionnaire peut atteindre au plus haut point pour nous conduire des mornes répétitions de l'habitude aux répétitions profondes de la mémoire, puis aux répétitions ultimes de la mort où se joue notre liberté. Nous voudrions seulement indiquer trois exemples, si divers soient-ils, si disparates. La manière dont toutes les répétitions coexistent dans la musique moderne. Ainsi déjà l'approfondissement du leitmotiv dans le Wozzeck de Berg. La manière dont le pop art en peinture a su pousser la copie de copie, etc. jusqu'à ce point extrême où se renverse et devient simulacre. Ainsi, les admirables séries sérigéniques de Warhol, où toutes les répétitions, d'habitude, de mémoire, de mort, se trouvent conjuguées. Et enfin, la manière romanesque dont des répétitions brutes et mécaniques de l'habitude se laissent arracher de petites modifications.
Mais attendez de me connaître et vous n'aurez plus peur. Dites-moi, quel âge avez-vous ?
21 ans, madame.
Stop ! Attendez, je vous arrête tout de suite. Natalia Petrovna n'est jamais triste. Elle est en colère parfois. Parfois, elle est méchante. Ou en chaleur. Oui, sexuellement en chaleur, mais jamais triste.
J'étais pas triste.
Vous étiez mélancolique. Vous étiez voûtée.
Mais j'ai trébuché.
Complètement voûtée.
C'est la présence du précepteur qui me trouble.
Non,
c'est vrai,
je veux pas de trouble. Je m'en fous du trouble. Je veux la démarche. Cherchez la démarche et le reste viendra. Depuis le début, je vous dis une phrase, une toute petite phrase. Poitrine offerte et...
Entravalé.
Bon. Un, deux, un, deux. Allez, Marc, Jean-Paul, les aristocrates, tout le monde. Juliette aussi. Le peuple, cherchez la démarche et le reste viendra. Allez, un, deux, un, deux, un, deux. Allez, Marceline. La grande actrice, qu'est-ce que vous attendez ? De sentir ? Un, deux, un, deux, un, deux. Je ne veux pas de sentiment. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Je veux des corps, pas de la psychologie. Et on va faire ça toute l'après-midi !
Anne Sauvagnac, on vient d'entendre un extrait du film de Valeria Bruni Tedeschi, actrice, dans lequel on entend une répétition de théâtre interrompue par le metteur en scène qui n'en est pas satisfait. Juste avant, j'ai lu un extrait encore de différences et répétitions. Et effectivement, on a vu déjà avec Bartleby que ce personnage faisait bégayer la langue. Le propre de l'art, comme on l'a entendu en musique, avec les arts plastiques, le pop art de Warhol que Deleuze cite, ou encore la répétition de théâtre, c'est de bien mettre en relief la manière dont procède la répétition, où l'on n'arrive plus à décerner finalement ce qui constitue l'événement de la répétition, à quel moment en fait est-ce qu'on se prépare, est-ce qu'on ne fait que répéter ce qui a déjà eu lieu, et on voit aussi la manière dont elle procède et la manière dont elle a une emprise, la répétition peut avoir une emprise sur nous de laquelle on peut se dégager.
Oui. Dans le texte que vous venez de lire, trois exemples sont donnés pour les arts qui nous sont contemporains. La musique, évidemment, la musique répétitive contemporaine, le domaine plastique, avec l'exemple du pop art, donc les séries, etc. Et puis le nouveau roman, avec la citation implicite dans le texte que vous avez lu du titre de Butor qui s'appelle La Modification, donc le nouveau roman. Et ce que veut montrer Deleuze ici, c'est comment la production des arts participe à l'élaboration de notre actualité. Mais pour que vous compreniez bien, que les auditeurs n'aient pas l'impression qu'on parle toujours de la même répétition. Il faut bien voir que répétition est un sujet, est un problème qui ne peut se dégager en philosophie que à la fin du 19e siècle, pour une raison très simple. C'est que si vous pensez la répétition dans l'horizon d'une éternité, comme c'est inscrit dans le mot lui-même, répéter, c'est produire le nouvel exemplaire d'un modèle. Mais si on n'est plus dans un cadre théologique, si on est dans un cadre de production, et par exemple où l'art peut jouer un rôle dans les sociétés, répéter, c'est pas répéter l'identique. Alors, Deleuze, il veut nous dire que ce statut très nouveau de la répétition a dégagé ses possibilités en art. Si on avait simplement le loisir de s'y intéresser, on verrait que dans la série, en musique ou bien en sérigraphie, par exemple, qu'est-ce que ça apporte lorsque Duchamp, par exemple, reproduit une boîte de soupe Campbell? Ben, c'est toute la question de l'art qui est posée. Parce que là, je vous dis toujours répétition, mais en réalité, la question que je pose, c'est la question de la ressemblance. Répéter. Or, l'art a toujours été conçu comme ce qui répétait ou imitait la nature. Maintenant, si répéter, c'est revenir à l'éternel, vous n'êtes pas dans la répétition qu'on cherche à penser ici. Mais s'il n'y a pas d'éternité, si nous sommes dans un temps processuel, alors ce qui se produit, c'est une puissance de consolidation. Et l'habitude devient consolidation. Et donc vous êtes un ensemble d'habitudes. Et c'est pour ça qu'on parlait de votre moi larvaire. Parce que vous êtes aussi fourmillante de petites habitudes que vous prendrez peut-être ou non, en fonction de l'ensemble des singularités que vous allez rencontrer et qui vont vous transformer. Lorsque Warhol reproduit un élément sériel du marché industriel, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il prend une boîte, c'est-à-dire un exemplaire le plus stéréotypé possible de notre production industrielle et qu'il nous dit c'est de l'art, que fait-il? En reproduisant le geste de Duchamp, il ne fait pas une imitation. Il produit, au contraire, des différences pour que vous puissiez voir dans cette simple soupe que vous pouvez ouvrir le soir pour vous faire un bouillon, quelque chose où vous voyez à la fois l'édifice social, mais aussi l'univers plastique de la publicité, et vous voyez, en contracté dans la matière, tout un nœud de qualificatifs sociaux. L'art rend visible le monde dans lequel nous avons déjà commencé à vivre.
C'est ça, c'est qu'il met bien, pour le coup, il rend bien visible aussi cette répétition que Deleuze cherche à dépasser, qui est toujours cette répétition du même, mais...
Non. Alors, il met en avant les puissances capitalistiques, il faut parler un peu de politique ici, parce que c'est industrie, donc c'est capitalisme industriel, donc c'est production de masse, production de série, donc c'est un univers de production où tout est fait pour que l'exemplaire soit produit avec le plus grand nombre possible dans une automatisation mécanisée. Or, dans répétition, vous avez mécanisation aussi.
Tout à fait, mais l'art
pour le coup, même si on tente de le mécaniser, même si on le tente de l'industrialiser, de le rendre répétitif, va révéler ce côté capitalistique de la répétition. Mais comment, en fait, on va pouvoir saisir cette dimension critique par l'art? C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on peut distinguer des répétitions quand elles sont répétitives au point d'être les mêmes, au point d'être si ressemblantes?
Eh bien, l'ennui que vous éprouvez, si vous vous dites c'est vraiment, vraiment la même chose, vous avez là une très bonne définition de la bêtise. La bêtise consiste à retrouver tout ce que vous saviez déjà, ou à répondre par une réponse correcte à une question que tout le monde se pose. C'est ça la définition de la bêtise. À une question que tout le monde a jugée une question intéressante, vous donnez la bonne réponse.
La bêtise et la bonne réponse.
La bêtise, c'est donner la bonne réponse à une question que tout le monde valorise. La bêtise, c'est donc le lieu commun. C'est les moments où nous pensons avec tout ce qui nous a été rendu habituel, où nous ne pensons pas nous-mêmes, où nous ne produisons pas de la pensée, mais où nous la laissons tourner de façon automatique. Hein? Penser, c'est pas répéter. Penser, c'est pas essayer de revenir à une bonne idée qu'on aurait eue. Quel intérêt de revenir à une bonne idée? Penser, c'est produire. Voyez-vous, quand on dit répéter, on dit ça se répète et on dit à nouveau.
Oui, c'est dans l'heureux qui est intéressant.
Ça se répète à nouveau. Il n'y a pas de nouveau qui soit donné en dehors d'une puissance de répétition. Ça ne sort pas tout seul, le nouveau. Et si vous êtes dans une dynamique du temps, sans Dieu, sans éternité, comprenez bien, si ce qui existe, c'est devenir en train de se transformer, alors se répéter, c'est aussi prendre identité.
Et c'est la démarche même, d'ailleurs, de Deleuze, finalement, avec la philosophie. C'est de cette manière-là, en fait, qu'il va définir la démarche philosophique, à savoir parcourir à nouveau un terrain.
Exactement. Là, je vous montre la couverture.
Pour redécouvrir des solutions qui sont à chaque fois les différentes.
Regardez, différence et répétition, Deleuze dit bien. Maintenant, il va falloir penser la répétition, les amis. On va la penser non plus à partir de l'identique, mais on va la penser à partir de la différence. Et une répétition qui diffèrent, il n'y a que les différences qui se répètent. Je vais vous le montrer très simplement, regardez. Il a bien fallu que j'en refasse. Le deuxième est différent du premier. Il n'y a que les différences qui se répètent. Je vais vous faire comprendre de façon très simple, avec un exemple de Ségalène. Victor Ségalène qui parle du collectionneur. Il dit, les gens pensent que les collectionneurs aiment toujours la même chose. C'est pas vrai. Ce qu'aiment les collectionneurs, c'est les petites différences. Le timbre poste.
Oui, mais finalement, en fait, du coup, ça n'est pas la répétition qui est différente par elle-même. C'est le fait qu'on trouve quelque chose qui diffère du même, qu'on trouve quelque chose... Par exemple, les 1000 habitudes qui nous composent, on va se coucher à 20h et tout, et on va être tellement heureux de la soirée, on va se coucher à 21h. Et c'est une différence dans cette répétition.
Bien sûr.
C'est ça qui va créer du plaisir.
Ne comprenez pas.
Et de la nouveauté.
Regardez, ne comprenez pas que dans répétition, vous avez une structure fixe qui se répète. C'est pas du tout ça dont j'essaie de vous parler. J'essaie de vous faire prendre conscience du fait que répéter, c'est pas avoir la structure déjà là et la remettre en scène. C'est exactement comme vous l'avez montré dans la répétition théâtrale, quand le metteur en scène dit « Je veux pas de psychologie, je veux des corps ». Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'on ne travaille plus avec notre mémoire sociale. Domestiqué, il veut qu'on puisse atteindre à une puissance d'expression beaucoup plus corporelle, mais alors aussi, disons, mécanique, automatique, contagieuse. C'est pour obtenir ce genre d'affect que la répétition, comme un entraînement méthodique, comme une habitude longuement répétée, c'est-à-dire comme un exercice, se met en place. Nos existences sont des exercices de transformation, aussi des habitudes qui nous structurent, et grâce auquel, Dieu merci, nous pouvons aussi changer le monde.
Il y a des moments où nous ne pouvons pas nous tromper quand nous disons « Ah mon Dieu, ça c'est nouveau ». C'est pas ce qui répétera cette nouveauté qui est intéressant. C'est que ce nouveau en tant que nouveau est la répétition déjà de tout ce qui lui succède. Difficile de penser une nouveauté qui soit comme la répétition de tout ce qui va lui succéder. Le peintre Manet a peint beaucoup, beaucoup de nymphéas. Il disait, on croit que c'est le 10e nymphéa de Monet qui répète le premier, dans le perfectionnant au besoin. Ben, c'est pas vrai, il disait. Il disait, c'est le premier nymphéa de Manet qui répète tous les autres. De même, il disait, c'est pas la célébration de la prise de la Bastille qui répète la prise de la Bastille, c'est la prise de la Bastille qui répète toutes les célébrations futures. En d'autres termes, la production d'un quelque chose de nouveau, c'est la répétition tournée vers le futur, la répétition de ce qui n'est pas encore.
Rien ne survient, il n'y a rien eu. Et tout d'un coup, nous sentons que nous ne sommes plus les mêmes forçats. Il n'y a rien eu. Et un problème dont on ne voyait pas la fin, un problème sans issue, un problème où tout un monde était à heurter tout d'un coup, n'existe plus. Et on se demande de quoi on parlait. C'est qu'au lieu de recevoir une solution ordinaire, une solution que l'on trouve, ce problème, cette difficulté, cette impossibilité vient de passer par un point de résolution, pour ainsi dire physique, par un point de crise. Et c'est qu'en même temps, le monde entier est passé par un point de crise, pour ainsi dire physique. Il y a des points critiques de l'événement, comme il y a des points critiques de température, des points de fusion, de congélation, d'ébullition, de condensation, de coagulation, de cristallisation. Et même, il y a dans l'événement de ces états de surfusion qui ne se précipitent, qui ne se cristallisent, qui ne se déterminent que par l'introduction d'un fragment de l'événement futur. Rien n'est mystérieux comme ces points de conversion profonde, comme ces bouleversements, comme ces renouvellements, comme ces recommencements profonds. C'est le secret même de l'événement. On s'acharnait après ce problème et on n'arrivait à rien. Et on devenait fou. Et ce qui est pire, comme un vulgaire lançon, on en devenait aigre. Et ce qui est pire, on en devenait vieux. Et puis tout d'un coup, il n'y a rien eu. Et on est devant un nouveau peuple, dans un nouveau monde, dans un nouvel homme.
Et puis tout d'un coup, il n'y a rien eu et on est dans un nouveau peuple, dans un nouveau monde, dans un nouvel homme. Alors ça, ce n'est pas Deleuze qui le dit, mais c'est Charles Péguy dans Clio, Dialogue de l'histoire et de l'âme païenne, qui date de 1913. Deleuze y fait bien référence et c'est bien Deleuze qu'on a entendu juste avant dans un cours donné à Vincennes en 1982. Et ces deux éléments nous permettent d'approfondir l'idée d'une répétition non pas tournée vers le passé, mais tournée vers le futur. L'événement, en fait, c'est la répétition de ce qui va lui succéder. Deleuze renverse complètement le rapport au temps de l'idée qu'on se fait habituellement de la répétition, Anne Sommaniergue.
Oui, alors c'est très simple. Platon disait que le cercle est le cercle est l'image mobile de l'éternité. Vous voyez pourquoi ? Parce que ça se répète. Enfin, vous avez un mouvement, en effet, mais ce mouvement revient sur place, et donc il y a l'idée d'un éternel retour. Bien entendu, la répétition, on l'a dit, elle engage une succession, et dans la succession, une certaine périodicité. On a déjà, c'est tout le problème de la temporalité, c'est tout le problème du temps. Maintenant, ce que dit Deleuze, de très simple, c'est que nous sommes des paysans qui avons tendance à penser que le passé est plus important que l'avenir et que le trésor de l'existence et de l'être se situe dans un être stable et qui est donné comme une vérité dans le passé. C'est contre cette manière éternitaire de valoriser l'absence de temps que Deleuze nous dit ce qui joue dans la répétition, celle qui est si importante pour constituer notre psychologie. La répétition au sens psychanalytique et inconsciente, des grandes répétitions inconscientes, eh bien nous dit Deleuze, la répétition ne réactualise pas un drame, un traumatisme, un problème inconscient. La répétition module au contraire une transformation, une sortie de soi. Un bon exemple pour ça est d'expliquer comment Guattari avec qui Deleuze a beaucoup écrit et qui est psychanalyste, a utilisé, lui, Guattari était psychanalyste, et donc il travaillait avec des psychotiques, et il utilisait parfois le simple fait de recopier à la main un texte comme une démarche qui peut conduire vers la constitution de nouveaux univers de référence où vous êtes capable de rebondir. Donc parfois la sclérose de la stéréotypie, un patient de Guattari à qui il conseille de recopier mot pour mot le château de Kafka. Vous connaissez la nouvelle de Borges. Quand on recopie Borges, quand on recopie entièrement Don Quichotte, ça donne un autre Don Quichotte parfaitement nouveau. Donc vous voyez, il n'y a pas d'identité au sens de réinvestiture de l'éternel. Il y a identité au sens de reprise hasardeuse, hardie, un peu mécanique, d'automaticité.
Et sans modèle.
Sans modèle, mais c'est limitant qui crée son modèle. Ce que vous appelez modèle, c'est ce que vous avez souhaité, voulu, imité, c'est ce que vous avez élu dans la position de modèle.
Bass.
Un.
Hi-hat.
Un.
808.
Un.
J.
Uh-huh. Ready? Uh-huh.
Let's go get 'em.
Uh-huh. Come on.
Merci beaucoup Anne Sauvagnard d'être venue nous parler de différences et répétitions.
Merci à vous.
Et donc de vous on peut lire Deleuze et l'art, c'est disponible au PUF, aussi Deleuze, l'empirisme transcendantal, aussi au PUF, et puis aussi Art Machine qui est disponible en anglais aux presses d'Édimbourg. Et puis chers auditeurs, lisez évidemment Différences et répétitions de Deleuze, c'est disponible aussi au PUF. Et puis quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve demain pour la suite et la fin de cette semaine sur la répétition. On en a un petit peu parlé aujourd'hui, mais demain, ce sera une émission qui sort de la routine puisque nous serons avec le philosophe, musicien et compositeur Carole Beffa qui se demandera au piano et sous vos oreilles si de la répétition musicale peut naître la création. Et quant à vous, pour écouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.